おかしいおかしい。
Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hiron.
Bonsoir. Assemblée nationale, le Premier ministre s'adressant aux députés ce mercredi a affirmé que la situation générale du pays s'améliore, mais que des efforts restent encore à fournir. Comment analyser ce bilan dressé par le Premier ministre sur le plan socio-économique, politique et sécuritaire? Pour débattre de ce sujet, nous recevons comme invité Thomas Louaka Losenjola, député national et secrétaire général adjoint du MSC, parti de l'opposition. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Maître Jean Bouillou, député national PPRD, parti présidentiel et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, également avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Professeur Thierry Landou, analyste politique, il est en ligne. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à réagir également. Kabashi Ilunga de Kalimio Katanga dit « Il faut reconnaître que les travaux des cinq chantiers sont visibles à travers le pays, mais ce que le Premier ministre Adolphe Mouzito ne doit jamais oublier, c'est l'existence d'un sixième chantier qui est l'amélioration des salaires des fonctionnaires qui tardent malheureusement. » Belangazi de Kananga au Kassai Occidental « Je pense que le Premier ministre dresse ce bilan sur base de sa vie sociale, de celle de ses ministres et des députés. Quant aux fonctionnaires, les salaires sont trop maigres et trop tardifs pour concurrencer ce bilan. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito a répondu ce mercredi aux préoccupations soulevées la semaine dernière par les députés nationaux lors de la question orale avec débat initiée par le député Jean-Lucien Boussa. Avant d'entrer dans le vif du débat, voyons d'abord l'ambiance qui a régné à l'Assemblée nationale avec vous, Julien Nyamouini.
C'est dans une salle de congrès à Ficomble que la plénière de l'Assemblée nationale s'est tenue ce mercredi. Le public était venu nombreux pour la circonstance. Politiquement, l'enjeu était de taille. Et pour lier l'utile à l'agréable, les militants du Parti Lumumbiste Unifié étaient au rendez-vous pour apporter leur soutien au chef du gouvernement, mais aussi pour mettre de l'ambiance dans la salle de congrès. Mais la mise en garde du président de l'Assemblée nationale n'a pas traîné de tomber. Évariste Boshab a prévenu, se référant à l'article 224 du règlement intérieur, il a indiqué ce qui suit. 1. Que le public n'est admis dans le tribune qu'à concurrence des places disponibles. 2. Pendant la séance publique, les personnes placées dans les tribunes doivent avoir une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. 3. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande n'est admise dans la salle. Et ces dispositions télévisées ont été traduites dans les quatre langues nationales. Ces rappels du règlement intérieur valaient la peine, explique un député, en vue d'éviter du chahut dans la salle de congrès. Chahut qui est arrivé sans surprise lors de la conclusion de la question orale.
Alors, juste un mot à tous hein, sur l'ambiance qui a régné ce matin. Maître Jean Bouillou, commençons par vous. Nous avons quand même remarqué, nous qui avions suivi le débat à la télévision, qui a, juste après, hein, avant la clôture de la plénière, des gens qui pointaient des députés du doigt, qui menaçaient même hein, des gestes menaçants, des grimaces. Juste un mot sur l'ambiance.
Ben, disons, c'était d'abord une ambiance assez chaude dès le départ. Il y avait comme une volonté de l'opposition de faire en sorte que le Premier ministre ne parle pas, que ce soit des ministres qui répondent de leurs actes, comme le dit du reste la Constitution. Mais il y a eu aussi une participation assez remarquée des militants, je crois être du Palou.
Comme d'habitude d'ailleurs.
Bon, comme d'habitude, et qui, durant les travaux, ils ont été assez calmes, mais vers la fin... ils voulaient manifester une certaine victoire. Bon, je crois que on est un peu habitué à ce genre de d'attitude de la part des militants du parti.
Voilà, honorable Thomas Louaka.
Oui, merci beaucoup. Mais quand même, il est déplorable de constater que régulièrement, lorsque le Premier ministre est invité à l'Assemblée nationale, son parti politique, les Palous, se sent obligé d'amener des applaudisseurs et des trios pour qu'ils viennent un peu mettre une pression physique sur le député. Et même à la fin, il y a eu des actes de menace. Cela est inacceptable dans une démocratie. On ne peut pas fonctionner dans une démocratie avec des intimidations de ce genre. C'est vraiment inacceptable. Il faudrait maintenant que les responsables de chaque parti politique, et là j'interpelle en particulier les Palous, que ce genre de choses ne puissent plus se répéter parce que c'est en violation de l'esprit et de la lettre de notre constitution.
Ce ne sont pas vraiment des menaces. D'abord, ce sont des gens qui ne sont même pas en mesure de menacer quelqu'un. Je crois que c'est une manifestation de, disons, comme ça, voilà. Public politique. Professeur Thierry Landau, un mot également sur l'ambiance. J'espère que vous avez suivi la plénière d'aujourd'hui.
Non, j'ai pas eu l'occasion de suivre la plénière aujourd'hui, mais en ce qui concerne l'ambiance, moi je me pose juste une question. Imaginez qu'un jour, les militants du Palou arrivent et que de l'autre côté, les militants du MLC et de l'opposition arrivent aussi au niveau de la même tribune, parce que tout le monde a droit à participer à ce genre de manifestation. Alors que se passera-t-il si jamais tout le monde pouvait se retrouver au même endroit avec l'ambiance dont on nous parle aujourd'hui? Je ne sais pas. Je crains énormément de choses à l'alliance. Ouais.
Merci, professeur. Commençons par le plan socio-économique. Sur ce plan, le Premier ministre estime que la situation du pays s'est beaucoup améliorée. Écoutons le Premier ministre Adolphe Mozito dans cet extrait choisi par Aimé Kamoua, notre stagiaire.
Il faut reconnaître que certaines actions entreprises par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République ont un impact immédiat au futur civil et social. C'est le cas des travaux d'infrastructures routières visibles à travers le territoire national, qui sont créateurs de nombreux emplois et gèrent la base du développement du pays. Il en est de même de l'uniformisation des deux ans salariales. Le gouvernement s'emploie également à mécaniser progressivement les nouvelles unités, notamment dans les services. De l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la santé. Dans ce dernier secteur, j'ai rappelé une fois encore les réalisations du gouvernement, à savoir la modernisation des 254 de santé sur les 615 existantes, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures, la fourniture des médicaments essentiels, la distribution de près de 5 millions de moustiquaires et de premiers insecticides, la mise sous traitement antirétroviral de 37 000 personnes. À ces réalisations, je voudrais ajouter également l'appui du gouvernement à l'extension de l'hôpital de Mongolie dans la commune du Mongafoula et la construction de l'hôpital du camp moderne du lycée Pantelère dans la commune du Kassarogo à Kinshasa.
Maître Jean Bouillou, il y a deux auditeurs, Igona de Bukavu Sud-Kivu, qui dit « Le Premier ministre Adolphe Mozito n'a pas dit la vérité aux députés, car sur le plan socio-économique, rien ne s'améliore. C'est curieux qu'il ne remarque pas la grogne sociale qu'il y a dans beaucoup de secteurs. » Jean-Pierre Mbouyou de Mbandaka, l'Équateur, « Pourquoi le gouvernement congolais prend le peuple en otage? Comment le Premier ministre peut dire que les conditions de vie de la population s'améliorent aussi longtemps qu'un policier touche 37 dollars américains et un militaire 45 dollars ?»
Oui, je dirais tout de suite qu'il y a deux manières de voir des améliorations. D'un côté, c'est la façon macroéconomique et la façon qu'on dit que les économistes qualifient d'indicateur économique du pays. Et de l'autre, c'est de voir ce changement être effectif sur le terrain, dans l'assiette, dans la pièce. Oui. Il y a toujours un écart parce que ce changement de paramètres qui est souvent précurseur du bien collectif, ne se traduit pas immédiatement par une matérialisation dans l'assiette. Donc, je dirais, et ceci est tout à fait rencontre ce que la Banque mondiale et monétaire analyse, lorsqu'on compare il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a un ensemble d'indicateurs aujourd'hui qui sont positifs par rapport à ce temps-là. Et c'est un élément objectif, le fonctionnement de l'économie, la communication, les échanges, les imports, l'export, il y a là des éléments positifs. Mais ces éléments positifs ne traduisent pas encore ce que chacun attend dans son assiette. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que contribuer à cet effort collectif pour permettre au gouvernement, justement, de générer plus de recettes et de répondre aux attentes de la population. Alors si, sur le plan socio-économique, on ne ressent pas, les salaires ne s'améliorent pas, tout de suite. Il faut dire que c'est un processus qui prend quand même du temps. D'ailleurs, dans son discours, le Premier ministre a rappelé que si on parle de 36 de 45 dollars aujourd'hui, dans un passé récent, on n'arrivait même pas à ces chiffres-là. Donc, ce que je dirais, c'est que la revendication est de mise, elle est compréhensible pour celui qui est justement dans le besoin, mais la venue d'une situation meilleure n'est pas aussi immédiate, n'est pas aussi automatique. Donc, ça prend du temps.
Honorable Thomas Louaka.
Non, je suis très à l'aise de constater que Maître Mbouyou, qui est un élu du peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même proche de ses électeurs, a la réalité de la situation en main. C'est ce qu'il vient d'avouer, c'est que pense le Premier ministre n'est pas sur le terrain. Sur le terrain, on ne ressent pas les améliorations dont parle le Premier ministre sur le plan socio-économique. Et peut-être il faut attirer l'attention des gens lorsqu'on nous parle des 5 chantiers. On oublie souvent les contenus des 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'est les infrastructures, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité et l'emploi. Mais maintenant, on commence à brandir le drapelet des infrastructures pour dire que c'est ça les synonymes de Saint-Chantier. Combien d'emplois ont été créés? Moi, les premiers ministres ne nous ont pas donné des chiffres. L'eau et l'électricité, combien de Congolais depuis que cette majorité est en place, combien de foyers de Congolais ont eu accès à l'eau potable et à l'électricité? Et l'éducation, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans l'éducation? Là, on n'a pas de réalisation. Donc, quand le Premier ministre dit que ça va mieux, la population a l'impression que soit le Premier ministre est de mauvaise foi, parce qu'il ne veut pas reconnaître la réalité que ça ne va pas sur les terres, soit il n'est pas au courant de la réalité. Et dans les deux cas, c'est très très inquiétant de la part du responsable numéro 1 du gouvernement.
Maître Mbouyou, je vous donne la parole tout à l'heure, mais honorable Thomas Louaka, n'êtes-vous pas finalement de ceux qui voient tout en noir? N'y a-t-il vraiment pas eu d'amélioration?
Tout à fait. Non, nous disons ceci. Par rapport à ce qui a été promis. Vous jugez quelqu'un par rapport à ce qu'il avait promis de faire, les programmes même du gouvernement. Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Le taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar. Le Premier ministre a dit, voilà, moi, j'ai trouvé ça à 500 dollars, j'ai maintenu ça pendant 2 ans autour de 600. Mais on est à combien maintenant? Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. On est à combien? On est à plus de 900. Qu'est-ce qui fait concrètement pour que cela puisse redescendre un peu? Rien n'a été dit. Maintenant, lorsque le dollar est à 900, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine, le secteur de la rémunération pour pouvoir soulager ne fût-ce qu'un peu la population congolaise? Parce que quand on avance des chiffres bruts en disant, pendant la transition, quelqu'un touchait 10 000 francs congolais, 20 000 francs ou 50 000 francs congolais, aujourd'hui il touche les doubles, ça ne veut rien dire parce que ça ne représente pas la même chose. 10 000 francs congolais en 2003 n'est pas la même chose que 10 000 francs aujourd'hui en 2010.
Professeur Thierry Landou, ne sommes-nous pas un peu comme d'habitude hein, en présence d'un verre à moitié vide et à moitié plein?
Moi, j'ai même une interrogation que je crois plutôt importante par rapport à ce que j'entends et aux jeux auxquels nous assistons. En fait, à quoi est-ce que tout ceci sert? Parce que d'un côté, vous venez d'entendre les réponses de celui qui est dans la majorité présidentielle. Bon, écoutez, sur le plan macroéconomique, il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a évolution, mais dans l'assiette, il n'y a pas grand-chose, il y a un problème de temps, il faut que ça prenne du temps. Mais ce discours du macroéconomique à l'assiette qui doit prendre du temps, on l'a entendu plusieurs années durant. Et pour la population, la question est de savoir, là, ceux qui gouvernent, le temps là qu'il faut pour que ça retombe dans bonne assiette, c'est combien d'années exactement? Parce que c'est depuis des années qu'on a ce discours. Et on prend à témoin la Banque mondiale, le Fonds monétaire, qui met des indices et tout ça. Mais on ne prend jamais à témoin qui que ce soit pour mettre des indices dans mon assiette. Donc ça c'est une question essentielle. Deuxièmement, j'ai comme l'impression qu'on fait un jeu au niveau du Parlement où les uns et les autres participent à une farce de type démocratique, juste pour dire, bon, il y a une liberté d'expression dans ce pays. D'un côté, on a une question orale, où on a une motion de censure, on fait un débat, mais de l'autre côté, la majorité se dit, bon, motion de censure ou pas, on vient avec les batteurs de tam-tam d'un côté, et puis à la fin, bon, on va voter si on doit voter, et la situation restera comme elle sera. Alors, c'est quoi exactement qu'on veut? Est-ce qu'on veut améliorer la situation de vie, non pas seulement de quelques-uns, parce que j'ai entendu l'honorable du PPD dire que le discours concernant la difficulté au niveau de l'assiette, de voir les effets au niveau de l'assiette, c'est le discours de ceux qui sont moins aisés. Mais alors l'autre discours, c'est le discours de ceux qui seraient aisés alors au niveau du pays. Alors on joue, c'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce que nous voulons réellement améliorer la situation de nous tous, en tant que peuple, en tant que population, ou bien nous voulons juste continuer à tenir des discours pour essayer de camoufler soit l'échelle, soit ce verre à mi-plein, ou qui n'est même pas plein du tout. C'est une interrogation fondamentale, à mon avis.
Merci au professeur Maître Mbouyou. J'emprunte au professeur Thierry Landau son expression, l'opposition et la majorité, vous vous livrez à une farce démocratique. Et combien d'années faut-il finalement pour que l'eau et le Congolais qui est à Massina, qui est à Malembankoulou, qui est à Inongo, puissent avoir l'eau et l'électricité comme il faut?
Oui, merci. Le prof Thierry Landau a évoqué un certain nombre de choses où pratiquement il veut renvoyer l'opposition au pouvoir dos à dos, comme si on faisait plutôt on ne savait rien. Ce qui se passe au niveau du Parlement, ce n'est pas une farce. Et il faut affirmer qu'un Parlement reste un centre de législation et un centre de contrôle. Le Parlement n'a pas pour mission, justement, de gérer, ni de, disons directement, de se mêler de gestion.
Mais de contrôler quand même.
Mais de contrôler l'action gouvernementale. Mais je ne cesse de dire qu'on ne doit pas se voiler la face. Lorsque le pays n'a pas assez de moyens, il n'a pas assez de moyens. Nous avons discuté du budget il y a quelques mois, et l'honorable Loaka qui est ici était là lorsque nous voulions, au niveau du Parlement, faire passer le 6,6% réservé aux rémunérations pour les amener à 9 ou 10%, et que les membres du gouvernement même sont venus dire que si nous faisons cela, nous n'irons pas atteindre le point d'achèvement au mois de mai, il faut descendre de ce niveau à moins de 6,6%. Ça, c'est le gouvernement lui qui l'a demandé. Finalement, après beaucoup de recoupages, disons de coupages, et s'il faut s'y rappeler, on a dû arrêter ce niveau à 6,8%. Ou 6,9, on a ajouté seulement 0,2%.
Mais qui ne représente rien dans le niveau de salaire,
qui ne représente rien. Mais c'est toute une procédure qui, disons, a rapport avec nos engagements par rapport à notre économie, par rapport à notre production, à ce que nous faisons. Moi, je dirais que la question est la suivante. On jette souvent la pierre sur le gouvernement et sur ceux qui gèrent, et sur l'intelligentsia d'un pays, sur cette question d'amélioration des conditions de vie. Mais on n'ose pas souvent aller jusqu'au bout. Parce que Thierry Landau, c'est quand même un homme très, très sensé, il connaît des problèmes tant nationaux qu'internationaux. Mais donc, il ne peut pas méconnaître les contraintes auxquelles son gouvernement doit faire face. Il ne peut pas les méconnaître. Et je suis d'accord que le gouvernement doit être irréprochable du point de vue de sa gestion, et il doit faire le mieux possible, il doit sortir de lui ceux qui ne travaillent pas, les corrupteurs, les corrompus, ceux dont la capacité n'est pas à même de gérer des affaires d'État, mais je ne suis pas d'accord de considérer que le gouvernement doit tout faire au mieux et immédiatement, alors que il y a des paramètres objectifs qui ne lui permettent pas de le faire, notamment la production même intérieure du pays. Je prends un dernier exemple de point de vue budgétaire. Nous avons voté un budget de 5 milliards de dollars pour des besoins qui sont d'ailleurs au-delà de 15 milliards. Et je ne me fais aucune illusion que ce budget de 5 milliards, qu'il soit correctement exécuté ou non, il n'apportera pas 25% des problèmes. Il n'améliorera pas de 25% les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous sommes obligés en tant que peuple, en tant que groupe, de co-gérer ensemble une série de problèmes dont les solutions ne seront pas
trouver un unanime et qui devrait justement prendre du temps, et nous devons être en complicité tous en vue d'arriver à cela.
Honorable Thomas Louaka, le Seigneur là, vous réagissez également au propos du professeur Thierry Landou, mais en plus deux autres auditeurs, Blanchard de Mbandaka à l'Équateur. Pourquoi le Premier ministre n'a pas pitié de la population abandonnée totalement à son triste sort? Qu'est-ce qui prouve que la situation socio-économique et sécuritaire, les situations socio-économiques et sécuritaires se sont améliorées quand il ne se passe pas un jour qu'on ne puisse signaler plusieurs cas de mort d'homme et la hausse des prix des denrées alimentaires sur l'ensemble du pays? Eric de Kinshasa, fallait-il que le Premier ministre attende la question orale du député Boussa pour annoncer des grandes réformes? Je pense que c'est une façon de tromper la vigilance du peuple.
Oui, tout à fait. Mais avant de répondre à ces deux préoccupations, je voulais quand même dire au professeur Thierry Landou, qui n'est pas un aigri de la politique congolaise, loin s'en faut, qu'on ne peut pas mettre dans le même sac l'opposition à la majorité en disant que vous vous livrez à une farce démocratique. Le professeur Thierry Landou connaît très bien les limites de l'action de l'opposition. Nous sommes minoritaires, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut nous proposer d'autre lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. La population nous fait part de cela. Nous posons les questions au gouvernement. C'est l'exercice auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Le Premier ministre répond et nous ne sommes pas satisfaits des réponses du Premier ministre. Nous, de l'opposition, nous dénonçons. C'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas, peut-être en aparté, le professeur Thierry Landou pourrait me proposer d'autres voies d'action qui resteraient tout de même démocratiques pour pouvoir, parce que je ne pense pas que le professeur souhaiterait quand même qu'on recourt à des voies de fait pour changer ce gouvernement. Donc ce n'est pas son entendement. Donc tout simplement pour dire que l'opposition est en train de faire remplir ses fonctions avec des limites du contexte dans lequel nous évoluons. Nous sommes au Congo, la démocratie c'est encore une quête. Mais pour répondre aux deux préoccupations de nos compatriotes, pourquoi le Premier ministre n'a pas pitié de la population? Je ne peux pas peut-être que mettre Mbuyu qui fait partie de la majorité politique avec le Premier ministre. Moi, je suis de la majorité sociologique et puisque nous sommes de l'opposition. Peut-être que le maître Mbuyu pourrait nous apporter des éléments d'appréciation sur l'état d'esprit du Premier ministre. Mais je partage tout à fait la préoccupation de ce compatriote. On a l'impression que le bien-être de la population n'est pas la préoccupation majeure de ces gouvernements.
Mais Maître Mbuyu a quand même reconnu que le changement, il n'est pas immédiat, il doit arriver progressivement. N'y a-t-il pas finalement un problème de communication? Ne faut-il pas dire toute la vérité à la population?
Non, je pense que le Premier ministre a été, on ne peut plus clair, pas cette fois-ci, mais lorsqu'il avait fait une prestation télévisuelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour que les Congolais puissent retrouver les niveaux de vie qu'ils avaient en 1960, lorsque les Belges sont partis, ils doivent attendre en 1940, en 2040. Il a été clair, il l'a dit, et avec des tableaux à donc, qu'est-ce que vous voulez attendre de ce gouvernement qui vous dit « Je ne peux pas faire de miracles, j'ai besoin d'encore d'une trentaine d'années pour vous remettre dans la situation que vous avez il y a 50 ans ?» Et la majorité applaudit. Mais nous disons, la population prenait bonne note, parce que demain, on viendra devant vous. Ces gens-là qui vous promettent le bonheur en 2040, lorsque nous ne serons plus là, ces gens-là vont venir et demander la confiance auprès de vous. Donc, le Premier ministre a été plus clair. Donc, lorsque M. Mbuyu parle du temps, il n'arrive pas à les chiffrer. Le Premier ministre l'a dit, il a donné des chiffres 2040 pour espérer manger trois fois comme on mangeait en 1960.
Dans 30 ans, donc. Professeur Thierry Landou, comment vous réagissez aux propos des honorables députés que nous avons dans ce studio? En plus, il y a Jérémy Kalongi de Mbujimayi au Kassai Occidental qui dit « Je me demande si le Premier ministre vit sur cette terre ou dans une autre planète, car pendant que la situation économique du pays s'empire, lui nous dit toujours le contraire. Pour moi, il doit démissionner avant que nous ne puissions tous disparaître. »
Bon, je voudrais dire une chose, c'est que l'honorable Thomas Loac a dit tout à l'heure, écoutez, nous, notre rôle, c'est de dénoncer, nous prenons les dénonciations, enfin, les avis du peuple, nous les portons aux autres de l'Assemblée, et notre rôle, c'est ça, quoi, ça se limite à ça, à légiférer, même à contrôler. J'ai entendu aussi le collègue du PPRD, ben, ils n'ont qu'un pouvoir législatif, ils ont un pouvoir de faire les lois et de faire le contrôle. Mais tout ce contrôle que l'on fait, on le fait pourquoi? juste pour avoir des statistiques à la fin de la session parlementaire pour dire nous avons fait autant d'interpellations, nous avons fait autant de questions orales, autant de motions de censure, mais qui n'aboutissent à rien et qui ne transforment rien au sein d'une société. Alors là, c'est une question que je me pose par rapport justement à ce type de démocratie que l'on voudrait avoir. Deuxièmement, par rapport à ce que l'honorable Thomas Louak a dit, nous, notre rôle se limite à là, et c'est voudrait qu'on aille à des manifestations violentes, etc. C'est pas à ce niveau-là que je me situe. Mais je pense que l'opposition est en train de s'enfermer à l'intérieur d'un système qui, en fait, utilise l'opposition pour montrer qu'il y a un jeu démocratique qui a lieu. Tout en sachant que l'opposition, étant minoritaire, n'a même plus d'assise de base en dehors, justement, de ces institutions. Quel est le lien qu'il y a entre l'opposition institutionnelle et les mouvements sociaux à l'extérieur, justement, de l'Assemblée, qui pour permettre justement d'exercer une pression après une question orale, après une motion, par rapport justement au gouvernement. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce débat-là se déroule au Parlement, mais au niveau de la population ici, personne ne suit, personne n'est au courant, à part peut-être les quelques auditeurs que vous interviewez ici et là pour participer justement à ce que j'appelle une force démocratique, parce que tous nous sommes en train de participer à ça. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Je ne dis pas qu'on ne doit pas légiférer, je ne dis pas qu'on ne doit pas contrôler, mais on doit contrôler seulement pour qu'on ait des sanctions, pour qu'on ait des résultats. Je me rappelle encore, il y a eu une séance au Parlement, je crois que c'est un ancien ministre qui avait été accusé d'être faussaire. Il a été interpellé, on a eu un débat où tout le monde espérait, au terme de ce débat, ce ministre-là, mais il ne sera plus là. Mais que s'est-il passé? On a eu une farce où il y a eu élection, ben ce type-là, il est resté ministre parce qu'il appartenait à la majorité présidentielle. Mais l'opposition a fait quoi? Elle a dénoncé, comme aujourd'hui nous avons une question orale, mais cette question orale n'est pas appuyée par une masse populaire qui va dans cette direction, qui est réellement au courant parce que justement l'opposition ne fait pas son rôle de feedback et de s'allier justement à tous ces mouvements sociaux qui peuvent lui permettre d'avoir une force qu'il n'a pas à l'intérieur des institutions.
Merci professeur. Maître Jean Bouillou, l'honorable Jean-Lucien Bousse a cité hein, vers la fin de son intervention des nouvelles acquisitions du Premier ministre en termes des biens mobiliers, immobiliers, maisons, avions, ceci, cela. N'a-t-on pas finalement l'impression, faudra-t-il encore le prouver, mais n'a-t-on pas finalement l'impression que le point d'achèvement, le doublement des recettes, tout ça ne va profiter qu'à une certaine catégorie et non à la population?
Oui, d'abord, c'était tout à fait antidéontologique ce que l'honorable a fait. Hein. Lorsque vous posez une question au Premier ministre, une question orale, et qu'il est venu, tout le monde a pu lui poser toutes sortes de questions, il est revenu, il a répondu à ces questions, on vous demande de donner la conclusion de cette intervention au Premier ministre, et vous venez vous énoncer de nouvelles questions et de nouvelles ambiguïtés révélations. Non, c'est pas déontologique. C'est pas déontologique. J'aurais souhaité, hein, pour ma part, que le président du Parlement arrête ses interventions qui étaient extra, ou ultra petita, au-delà même de la matière.
Alors, par rapport à ma question.
Oui, je voudrais, avant de revenir à cette question, souligner ce que l'honorable Locke a dit ici, la question de 2040. Elle a très mal compris le Premier ministre. La dimension de développement se définit par nombre d'années. On ne peut pas d'une situation espérer rejoindre une situation meilleure en dehors. Il y a toujours un temps. C'est dans ce sens que le Premier ministre a dit, si vraiment nous devons atteindre tel niveau, il nous faut compter 25 ans. Jamais c'est 25 ou 50 ans. De la même manière, je ne suis pas d'accord avec le prof Landou qui semble justement s'emprisonner dans une sorte de fétichisme. Non. Je crois qu'il faut prendre les paramètres. Il ne faut pas continuer à s'interroger. Il faut ouvrir des pistes. Alors, pour revenir à votre question sur le Premier ministre, est-ce qu'il a des possessions ou pas? Je suppose que cela a été une déclaration tout à fait du genre à faire succès au micro. Parce que si le député avait entendu faire appeler le Premier ministre sur ces questions, il aurait pu les écrire dans sa propre question écrite. Comme ça, le Premier ministre aurait dû
répondre lorsqu'il nous adresse son mot ce matin. Mais les sortir au moment de la conclusion, c'est quasi diffamatoire. Moi, j'ai pas aimé ça.
Honorable Thomas Louaka, Los Angeles, docteur Mamoni Dovira, ensuite qui vous. Le Premier ministre doit avoir le courage de reconnaître que rien ne va dans ce pays. La misère ne fait que croître, trop c'est trop. Michel de Calimi au Katanga, si le Premier ministre dit que la situation socio-économique va bien, c'est vraiment théorique parce qu'en pratique, rien ne marche. Les impaiements existent depuis près de 10 ans. Je voudrais réellement savoir quelle est la politique sociale du gouvernement pour améliorer la politique de la vie de la population.
Ok, merci beaucoup. Donc, comme je ne fais pas partie du gouvernement, je ne peux pas répondre à la politique, à la question sur la politique du gouvernement pour améliorer le social. Mais je suis tout à fait d'accord avec le docteur Mamouni et M. Michel qui disent que rien ne va. Parce qu'ils sont à la base. Ils vivent la réalité au quotidien. Nous demandons à nos amis de l'ANP, la coalition ANP Palou, de se réveiller, d'entrer en contact avec la réalité. Parce que rien ne va. Il ne faut pas qu'on se gargarise des statistiques, des chiffres en disant que voilà, on a été avec les gens de la Banque mondiale, ils nous ont dit bravo, continuez comme ça. Non, la situation ne va pas. Lorsque vous êtes allé chercher les suffrages du pouvoir auprès de la population, vous aviez une idée sur ce que vous allez faire. Mais aujourd'hui, on commence à nous dire non, les 5 ans que vous nous avez demandé, ce n'est pas suffisant, maintenant il faut qu'on fasse des projections, ce que mon collègue est en train de dire ici, des projections de 25 ans et de 50 ans. Non, les populations congolaises veulent que les conditions de leur vie s'améliorent aujourd'hui, et c'est possible. Nous, de l'opposition, nous avons fait des propositions claires là-dessus. Il est possible d'améliorer les conditions sécuritaires de la population, les conditions économiques. Il faut mettre de l'ordre au niveau du gouvernement, au niveau du budget, au niveau des finances. Votre préoccupation, mon collègue n'a pas répondu à cette question, je comprends tout à fait son embarras. S'il y a des améliorations, on a l'impression que cela profite à une clique, à un groupe d'individus qui sont près du soleil.
Et aux députés.
Et ça, ce n'est pas normal.
Et aux députés.
Ça, ce n'est pas normal.
Professeur Thierry Landou, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, Raymond Kasangala de Kinshasa dit « Le Premier ministre ne pouvait que se vanter de sa politique dont les résultats sont peu palpables. Le gouvernement s'engage à améliorer les salaires des fonctionnaires dans le futur alors que la misère frappe les portes des Congolais à un niveau jamais vu dans le passé. La corruption prend racine au sommet de l'État et dans les entreprises publiques. Ne voyez-vous pas là, professeur, finalement un ras-le-bol de la population par rapport à toute la classe politique ?»
Bon, d'abord, j'aimerais prendre un autre sommet qui a dit que je ne devais pas faire du fétichisme. J'adore le mot fétichisme, justement. Parce que ce mot a une qualité par rapport à tous ceux qui gouvernent et qui gouvernent mal souvent. C'est que le fétichisme fait peur. Et j'espère qu'un jour, le peuple pourra récupérer cet aspect fétichiste pour non seulement, c'est pas pour faire de violence aveugle, mais pour jouer pleinement son rôle, justement, dans le contrôle et dans l'exercice de ce pouvoir qui est le sien, et ne pas attendre, justement, le moment où il y aura des élections pour cela. Deuxièmement, je crois que s'il y a un conseil à donner aux politiciens aujourd'hui, demandons un peu à ceux de l'AMP, bientôt ce sont les vacances parlementaires, je crois, est-ce qu'ils peuvent rentrer à la base dans les quartiers périphériques ici à Kinshasa, et même à l'intérieur du pays, aller leur tenir le discours qu'ils viennent de tenir à l'Assemblée aujourd'hui pour dire que tout va bien, ça s'est amélioré, là vous voyez les conditions ici et là, comment ça se passe, sur le plan macroéconomique, nous pouvons vous dire qu'il y a des indicateurs que la Banque mondiale. Est-ce qu'on peut aller au niveau de la base pour expliquer cela en ces termes-là? Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Alors, par rapport à la situation générale, la population, la vraie question, on a dit, c'est pas d'avoir un ras-le-bol. Ce peuple a toujours eu un ras-le-bol, mais le peuple n'arrive pas à s'organiser réellement pour non seulement exprimer son ras-le-bol de manière positive, c'est-à-dire en se prenant réellement en charge à travers des institutions qui devraient être aujourd'hui l'opposition, justement. Ce lien-là, il faut qu'on arrive à l'établir. Pas seulement aujourd'hui, même pour demain, lorsque ceux de l'ANP seront dans l'opposition si jamais les autres arrivent au pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a comme un hiatus réel, il y a un pont qui est coupé entre ceux qui sont au pouvoir, que ce soit dans l'opposition ou bien au niveau de la majorité et qui font cet exercice oratoire au niveau du Parlement. C'est, moi, je me dis, il est grand temps qu'on se réveille, qu'on regarde cela en face. Est-ce que c'est cette démocratie que l'on doit avoir? Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on commence à lire le peuple à ras-le-bol. Dernièrement, il y avait grève des chauffeurs de taxi. Mais on a vu des manifestations dans la ville où des jeunes gens se sont mis à jeter des pierres sur les chauffeurs qui osaient de travailler. On dira que ce sont des badauds, on dira que ce sont des clous. Non, on peut leur donner tout ce qu'on veut comme expression dans un État qui se veut de droit. Mais hey, si c'est par rapport à ce ras-le-bol, il y aurait un moment où nous n'aurons pas le temps de les qualifier. Et à ce moment-là, mais on s'en prendra à tout celui à qui on s'en prendra. Je n'aimerais pas que nous revenions à cette situation-là, mais il faudrait justement pour cela que le jeu démocratique se joue et qu'on n'ait pas l'impression justement qu'il y a un défaitisme. C'est-à-dire que on dénonce et puis rien ne se passe.
Sur le plan politique et sécuritaire, le Premier ministre a également relevé que la situation du pays s'est nettement améliorée. On l'écoute dans cet extrait choisi une fois de plus par Aimé Kamoua, notre stagiaire.
Les résultats suivants devraient s'exprimer sur les plans politiques et sécuritaires. La normalisation des relations diplomatiques avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi avec des corps d'ambassadeurs. La reprise de la coopération dans les cadres de la CPGL. L'achat de la rébellion du CNI. La crainte conjointe des forces négatives LRA et SDR. La formation d'un bataillon commando au minimum de la coopération belge et dans les bâtiments de feu dans la province de l'Équateur a été concluante. La formation des 20 autres bataillons grâce à la coopération multilatérale sous l'égide de la Monique. La réouverture des écoles de formation et académies militaires. La transformation des groupes armés en partis politiques et l'intégration de leurs éléments combattants dans l'armée nationale. Le retour progressif des réfugiés dans leur pays respectif, la tenue prochaine d'une conférence de l'Union africaine pour la résolution du problème du Rwanda, la délimitation et les bornages des frontières avec le Rwanda, la promulgation de la loi portant fixation du plateau continental de la République démocratique du Congo, enfin l'institutionnalisation des conditions de défense et sécurité avec l'ensemble des pays voisins.
Maître Mbouyou, il y a l'honorable Odiane Ponard de Kisangani en province orientale qui dit « Je pense que le Premier ministre a du pain sur la planche en matière sécuritaire car le Haut-Ouélé est toujours plongé dans l'insécurité qui ne dit pas son nom. Il faut reconnaître que le gouvernement nous a habitués à ce vocable post-résiduel, mais c'est post-résiduel qui continue à endeuiller beaucoup de familles congolaises. » Oui, dommage effectivement, mais lorsqu'on parle de post-résiduel, c'est avec raison. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une situation qui paralyse le pays en entier ou une partie du pays. C'est-à-dire que le pays peut fonctionner, les institutions fonctionnent tant au niveau national qu'au niveau des provinces, mais il demeure en certains endroits un climat d'insécurité. Et cela n'est pas propre qu'à notre pays. Il y a dans beaucoup de pays des situations récurrentes comme ça qui durent des années, même dans les pays européens, aux pays américains, aux pays asiatiques. Donc, lorsqu'on dit que la situation sécuritaire est normale, ça ne veut pas dire que par-ci, par-là, il n'y a pas de sur certaines étendues, des problèmes. Et si nous revenons à 10 ans auparavant, à 7-8 ans, nous allons nous rendre compte effectivement que là, nous avions un pays qui était complètement divisé, où des gouvernements étaient à des plus étendues. Je crois que l'honorable doit faire l'opposition en sait plus que moi. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout cette situation-là. Il y a une situation étatique qui s'est installée, normalisée. Il y a une communication entre les institutions nationales et les institutions provinciales. Il y a une visibilité des petites institutions locales, donc du démembrement de l'État. Il y a même des perspectives qui aient des élections au niveau de la base. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait politiquement et sécuritairement à la faveur du gouvernement.
Honorable Thomas Loakalo-Saint-Jola, sur le plan sécuritaire et politique.
Non, sur le plan politique, nous pouvons dire que nous sommes déçus par rapport à ce que nous nous attendions pendant la transition. On s'est dit maintenant, on va aux élections démocratique, nous allons entrer dans un ère démocratique. Il faut dire que sur ce plan-là, il y a eu quand même des reculs. Dans l'avènement ou la consolidation de la démocratie dans notre pays, je vous donne un exemple. Vous savez, comme je suis de l'opposition, il est presque pratiquement impossible de passer sur les médias nationale. La RTNC, par exemple, lorsque vous suivez, toute la population suit. On n'entend jamais la voix de l'opposition sur la chaîne nationale qui est devenue une chaîne privée de la majorité. Donc voilà un élément. D'autres éléments, les intimidations, les actes d'intimidation, un élu de la population de la province de l'Équateur, un élu provincial, est aux arrêts jusqu'aujourd'hui au niveau de la mer sans aucun casier judiciaire. Ça, c'est vraiment un recul sur le plan démocratique. Je n'ai donné que ces deux exemples.
Sur le plan sécuritaire.
Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous avons 4 zones d'insécurité. Lorsque Maître parle des zones résiduelles, de l'insécurité résiduelle, vous pouvez vous imaginer que c'est un petit coin, un quartier. Non. C'est, je vous donne là où là. FRDC sont opérationnels avec le soutien de la Monique, bien entendu. Les mêmes Monique dont on demande en même temps le départ et l'appui dans ces opérations. Nord et Sud Kivu, zone d'insécurité. L'Ituri, zone d'insécurité. Parce qu'il y a des opérations qui se déroulent là-bas. La province orientale, il y a un collègue qui vient de nous parler de ça. Zone d'insécurité, l'Équateur, zone d'insécurité. Donc ce n'est pas si résiduel que ça. Et ce serait quand même un peu indécent de parler de résiduel lorsqu'on a plus d'une centaine de milliers de compatriotes qui sont à Brazzaville. Et parce qu'à la suite justement de cette insécurité résiduelle, elle n'est pas résiduelle toujours, elle est récurrente, elle est là. Et dernier élément, sur le plan sécuritaire, j'ai appris une déclaration d'un haut responsable des Nations Unies qui a dit ceci: la RDC, c'est la capitale mondiale des violences faites à la femme. Ce n'est pas normal. On ne veut pas dire que la situation sécuritaire s'est améliorée dans notre pays.
Professeur Thierry Landou, votre lecture par rapport à la situation politique et sécuritaire?
Bon, moi, je suis les déclarations des uns et des autres. En fait, d'un côté, bon, on affirme que la situation s'est améliorée. On utilise une belle métaphore, les poches résiduelles. Mais dans les poches résiduelles, il y a des populations, il y a tout un peuple qui y vit. Ce serait intéressant de savoir, par exemple, dans ces poches résiduelles, quelle est la population qui est en mouvement, quel est le nombre de meurtres qui s'y passent, quel est le nombre de décès que l'on trouve dans ces poches résiduelles. Ces gens-là dans les poches résiduelles, si ces poches résiduelles sont ces poches que l'honorable Thomas Loaka vient de mentionner. On a oublié une autre poche résiduelle, semble-t-il. Il paraît que dans les forêts du Bandundu, là-bas aussi, il y a encore une petite poche résiduelle avec ceux qui font le braconnage. Bon, tout ça, évidemment, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas alarmer la population, comme on dit. Donc, il faut utiliser une métaphore qui dit que, tout marche bien. Souvenez-vous qu'à l'Équateur, lorsqu'on posait des questions sur les émielés, on disait, oh non, ce sont des villageois qui sont en train de se disputer des étangs. Et puis après, les villageois se sont retrouvés en Bandaga, non pas avec des filets de pêche ou des enfants, mais ils étaient armés lourdement et ils ont terrorisé la ville pendant tout un temps. Donc moi, je crois que il faut que nos responsables deviennent réellement responsables par rapport à ces questions. Il y va des vies humaines et de nombreuses vies humaines. J'ai entendu une fois, je crois que c'était le ministre de l'Information, lorsqu'il parlait des opérations Kimia 1, Kimia 2, il utilisait une métaphore qu'on a entendue pendant la guerre de l'Irak, je crois, les effets collatéraux. Mais c'est souvent toutes ces métaphores qu'on utilise qui ne rendent pas compte de la gravité de la situation. Les effets collatéraux en Irak, c'est lorsque les Américains tirent sur les civils irakiens. Alors, c'est quoi les effets collatéraux au Congo? C'est lorsque nous tirons sur notre propre peuple, nous parlons des effets collatéraux. Merci. Les Américains ne parleraient pas d'effets collatéraux lorsque des boys meurent en Irak. Donc, il y a une certaine défense aussi que nous devons avoir par rapport à ces questions sécuritaires. Et je crois qu'il y va de la responsabilité des uns et des autres.
Merci, professeur, pour cette intervention qui avait déjà pris des élans de conclusion. Maître Jean Bouillou, il y a Matoumaïni Franklin qui dit: je crois que la démarche de l'opposition n'est pas celle de faire tomber Mouzito, mais celle de prouver à l'opinion nationale que d'une part, elle ne contribue pas au malheur des Congolais, d'autre part, elle est toujours active malgré les critiques contre elle. Bon, je pense d'abord que l'opposition a trouvé un cadre tout à fait harmonieux, je dirais, d'exercice de sa mission, parce qu'une opposition reste une opposition, et
généralement une vision négativiste, elle a une vision de promesse, si nous pensons pouvoir nous faire mieux que les autres, et ce rôle a été assumé malgré les attentes que certains dans la population ont cru, espérer de l'opposition. Mais d'un autre côté,
en guise de conclusion,
je dirais, sur cette question de débat du discours du Premier ministre, je dirais personnellement que les réponses qu'il a données ont été suffisamment adultes et suffisamment générales comme dans sa mission de chef de gouvernement. Et il ne peut rendre compte que de ce qui a été réalisé, et les réalisations, il a pu les donner. Et il a reconnu les faiblesses, il a promis de faire mieux avec le concours de ceux qui peuvent l'aider, et je crois que c'est un discours équilibré et mature et qui n'a pas été flatteur.
Honorable Thomas Loakalo Senjola, un mot pour conclure.
Oui, tout simplement, aujourd'hui nous avons mis la preuve par 4 ou par 9 que le gouvernement n'est plus en contact avec la réalité. C'est un gouvernement, le discours du Premier ministre était surréaliste, mais nous, l'opposition, nous nous engageons à continuer à remplir notre émission, à dénoncer à tout moment ce qui ne va pas, et aujourd'hui ce gouvernement a échoué.
Fin de cette émission, merci à vous qui avez été des millions à nous suivre à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net sur lequel vous pouvez réécouter cette émission. Guy Maté, Samuel Kachak, Kéline Couté et notre stagiaire Rémi Camoua ont préparé cette émission sous la supervision rédactionnelle de Martin Seboujangwe, à la technique Jean-Claude Nsiala et Patrick Kiasongwa, à la présentation Alain Hirung. Au revoir. Oh, Kathy, oh, Kathy.